4. Je ne saurais décrire l'état dans lequel me laissa ce pénible épisode, aussi démentiel que navrant, aussi grotesque que terrifiant. Le garçon d'épicerie m'y avait préparé, mais je n'en étais pas moins bouleversé et fort troublé. Malgré l'évidente puérilité de son récit, la gravité démente et l'effroi du vieux Zadok avaient instillé en moi un malaise grandissant, qui s'ajoutait à ma répugnance première pour cette ville aux insaisissables ténèbres. Plus tard, sans doute, pourrais-je passer au crible cette histoire et tenter d'en extraire un semblant de vérité historique, mais je ne désirais pour l'instant qu'une chose, l'oublier. Il commençait à se faire dangereusement tard. Ma montre affichait 19h15 et le bus pour Arkham quittait la grande place à 20h. Si bien que je m'efforçais d'orienter mes pensées vers des considérations plus immédiates et pratiques, tout en filant rapidement le long des rues désertes au milieu des combles béants et des maisons instables pour rejoindre l'hôtel où j'avais déposé ma valise et où m'attendait le bus. La lumière dorée de cette fin d'après-midi nimbait les toits aux cheminées croulantes d'une mystérieuse et paisible aura de mystère. Mais je ne pouvais m'empêcher de jeter par-dessus mon épaule de rapides coups d'œil. Je serais certainement ravi de laisser derrière moi l'ombre funeste de la nauséabonde Innsmouth, et j'espérais si possible trouver pour cela un autre véhicule que le bus du sinistre Joe Sargent. Je ne pressais cependant pas trop l'allure, car chaque coin de rue silencieux abritait un détail architectural digne d'attention, et j'avais calculé que je pouvais aisément regagner le centre en une demi-heure. Après avoir cherché sur le plan du jeune épicier un itinéraire que je n'avais pas déjà emprunté, je choisis de m'engager sur March Street plutôt que sur State Street pour me rejoindre vers la Grand Place. À l'angle de Fall Street, je me mis à croiser des groupes épars d'habitants furtifs qui chuchotaient entre eux et, quand enfin je parvins sur la place, je remarquai que presque tous les flâneurs s'étaient rassemblés devant la porte de la pension Gilman. Alors que je récupérais mon bagage à la réception, j'ai eu l'impression de sentir leurs yeux saillants, humides et fixes détailler chacun de mes mouvements, et je priais le ciel qu'aucune de ces repoussantes créatures ne fût mon compagnon de voyage. Un peu avant 20h, l'autocar fit une entrée tapageuse sur la place avec trois passagers à son bord et se gara devant nous. Un homme à l'allure inquiétante s'avança alors pour marmonner depuis le trottoir quelques mots indescriptibles au chauffeur. Sargent jeta par terre un sac postal et un rouleau de journaux, puis entra dans l'hôtel tandis que les passagers, les mêmes hommes que j'avais vus le matin descendre de Newburyport, se traînaient sur le trottoir et échangeaient quelques phrases gutturales avec un badaud dans une langue qui, j'en aurais donné ma main au feu, n'était pas de l'anglais. Je montai dans le véhicule vide et choisis la même place qu'à mon arrivée, mais à peine m'étais-je assis que Sargent réapparut et se mit à grommeler quelque chose d'une voix rocailleuse particulièrement répugnante. Apparemment, je jouais de malchance. Le moteur avait eu des ratés, même s'il avait tenu tout le long du voyage depuis Newburyport, et le bus n'allait pas pouvoir effectuer sa correspondance avec Arkham. Non, il était impossible de le faire réparer dans la soirée, et il n'y avait pas d'autre moyen de transport permettant de quitter Innsmouth, que ce fût pour Arkham ou ailleurs. Sargent était désolé, mais j'allais devoir passer la nuit au Gilman. Le réceptionniste me ferait certainement un prix. Non, il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est donc presque sonné par cet obstacle imprévu et par la terrifiante perspective de voir la nuit tomber sur cette ville en déclin, à demi éclairée, que je descendis du bus et regagnai le hall de l'hôtel, où le réceptionniste de nuit, un individu renfrogné à la mine sinistre, m'indiqua que je pouvais prendre la chambre 428 à l'avant-dernier étage, grande, mais sans eau courante, pour $1 seulement. Malgré ce que j'avais entendu dire au sujet de cet hôtel à Newburyport, je signai le registre, m'acquittai de la somme demandée, laissai le réceptionniste porter ma valise et gravis à la suite de cet employé revêche et solitaire 3 étages de marches grinçantes et de couloirs poussiéreux qui semblaient entièrement inoccupés. Ma chambre, une pièce lugubre à l'arrière de l'établissement percée de 2 fenêtres et garnie de meubles austères et bon marché, donnait sur une petite cour glauque cernée de bâtiments de briques déserts et peu élevés, et surplombait une enfilade de toits délabrés laissant place, loin à l'ouest, à une portion de campagne marécageuse. Au bout du couloir se trouvait une salle de bain, dans un état de décrépitude décourageant, pourvue d'une antique cuvette de marbre, d'une baignoire en étain, d'un faible éclairage électrique et de lambrimoisie tout autour de la tuyauterie. Comme il faisait encore jour, je descendis sur la place pour trouver de quoi dîner et remarquai les coups d'œil étranges que lançaient sur mon passage les sinistres promeneurs. L'épicerie étant fermée, je dus me rabattre sur le restaurant que j'avais dédaigné un peu plus tôt. Il était tenu par un homme voûté au crâne étroit, dont les yeux fixes ne clignaient jamais, et une fille au nez plat affligée de mains incroyablement épaisses et maladroites. Le service se faisait au comptoir, et je constatai avec un certain soulagement que la plupart des plats proposés étaient à l'évidence issus de boîtes de conserve et d'emballages fermés. Je me contentai d'un bol de potage et de biscuits salés, et regagnai bientôt ma triste chambre au Gilman, où j'obtins le journal du soir ainsi qu'un magazine marbré de taches noires auprès du réceptionniste au visage mauvais. Il les piocha dans un éventaire instable posé à côté de la réception. L'obscurité s'épaississait. J'allumai l'unique lumière de ma chambre, une faible ampoule électrique installée au-dessus d'un sobre lit en fer forgé, et m'efforçai de poursuivre la lecture que j'avais entamée. J'estimai nécessaire d'occuper sainement mon esprit, goûtant peu l'idée de ressasser les aberrations de cette vieille ville flétrie par la corruption, tant que j'étais encore dans ses murs. Le récit délirant du vieil ivrogne me promettait des rêves peu agréables, et je sentais qu'il me fallait tenir le souvenir de son regard sauvage et larmoyant le plus loin possible de mon imagination. Mieux valait également ne pas trop s'attarder sur ce qu'avait raconté cet inspecteur du travail au préposé de la gare de Newburyport à propos de la pension Gilman et de sa faune nocturne aux voix étranges, et encore moins sur ce visage sous la tiare qui s'était encadré dans la porte obscure de la crypte, ce visage dont l'effroyable abjection échappait à tout effort d'examen conscient. Il m'aurait sans doute été plus facile de tenir la bride à ces préoccupations troublantes si la chambre n'avait baigné dans un remugle fétide de bois moisi. Cette puanteur étouffante se mêlait hideusement aux relents de poissons qui imprégnaient la ville et peuplaient mes pensées de charognes décomposées. L'autre détail qui me tourmentait était l'absence de verrou sur la porte de ma chambre. Les marques dans le bois prouvaient qu'il y en avait eu un, mais tout portait à croire qu'il avait été enlevé récemment, sans doute parce qu'il ne fonctionnait plus correctement comme tant d'autres choses dans cet établissement vétuste. Dans ma nervosité, je fouillai la pièce et trouvai abandonné sur la penderie un verrou visiblement de la même taille que celui autrefois installé sur la porte. Afin d'apaiser quelque peu mes appréhensions, je m'appliquai à le fixer sur le battant à l'aide du petit tournevis de mon nécessaire 3-en-1 accrociné à mon porte-clés. Le verrou s'ajusta parfaitement, et j'éprouvai quelque soulagement à l'idée de pouvoir m'enfermer pour la nuit. Non pas que j'estimais en avoir véritablement besoin, mais tout symbole de sécurité était bon à prendre dans un tel environnement. Les deux portes qui communiquaient avec les chambres adjacentes étaient également équipées de verrous que je m'empressais de fermer. Je ne me déshabillai pas, préférant lire jusqu'à ce que le sommeil me gagne et noter que mon veston, mon faux col et mes chaussures pour m'allonger. Je récupérai une lampe de poche dans ma valise et la fourrai dans mon pantalon afin de pouvoir consulter ma montre au cas où je me réveillerais dans l'obscurité. Mais le sommeil ne venait pas, et quand je fis le silence dans mon esprit, je me rendis compte qu'inconsciemment, j'étais à l'affût de quelque chose que je redoutais sans pouvoir le nommer. L'histoire de cet inspecteur m'avait probablement plus impressionné que je ne l'aurais cru. Je m'efforçais à nouveau de me concentrer sur ma lecture, mais c'était peine perdue. Au bout d'un moment, il me sembla entendre craquer sous des pas les marches et le parquet des couloirs, et j'en conclus que l'hôtel commençait à se remplir. Je n'entendis toutefois pas parler, et je fus bientôt frappé par le rythme lent, presque furtif de ses grincements. Cela ne me plaisait guère, et je me demandais s'il était bien prudent de m'endormir après tout. Cette ville abritait des individus fort douteux, et avait indéniablement été le théâtre de plusieurs disparitions. Me trouvais-je dans l'une de ces auberges où l'on assassinait les voyageurs pour leur dérober leur argent? On ne pouvait pourtant pas dire que j'avais l'air fortuné, à moins que les habitants ne vouent véritablement une haine meurtrière aux visiteurs trop curieux. M'étais-je attiré leur foudre en explorant trop ouvertement les rues d'Innsmouth, les yeux rivés à mon plan? Mais je ne tardais pas à me rassurer. De tels craquements sont monnaie courante dans les vieilles bâtisses, et mes folles spéculations étaient à mettre sur le compte d'une trop grande fébrilité. Je regrettais néanmoins de ne pas disposer d'une arme. À terme plus épuisé que véritablement somnolent, je poussai le verrou bricolé de ma porte, éteignis la lumière, et me jetai sur le matelas dur et inégal du lit, sans même prendre la peine d'ôter mon veston, mon faux col et mes souliers. L'obscurité semblait amplifier le moindre bruissement nocturne, et des flots d'idées sombres et déplaisantes me submergèrent. Je regrettais d'avoir éteint, mais j'étais trop fourbu pour me relever et rallumer la lumière. C'est alors, après un long et lugubre moment de silence, que j'entendis, précédé du gémissement du bois dans l'escalier puis dans le couloir, ce bruit léger et affreusement reconnaissable qui venait confirmer d'atroces manières toutes mes craintes inavouées. Sans l'ombre d'un doute, quelqu'un, avec une infinie précaution, tournait une clé dans la serrure de ma porte. Devant cette preuve irréfutable de menace bien réelle, mes bouffées de panique furent sans doute moins violentes du fait de la peur diffuse et de la méfiance instinctive que j'avais éprouvée plus tôt. Un indéniable avantage pour faire face à l'épreuve qui m'attendait, quoi qu'elle pût être. Néanmoins, voir mes vagues frayeurs se muer en une réalité immédiate fut pour moi un choc intense qui m'atteignit avec la force d'un coup de poing au visage. Il ne s'agissait pas d'une erreur, j'en étais persuadé, mais d'une malveillance préméditée. Je ne fis pas un bruit. Et c'est dans un silence de mort que j'attendis la suite. Quelques instants plus tard, le prudent cliquetis cessa, et j'entendis qu'on ouvrait la chambre plus au nord avec un passe-partout, puis qu'on tournait doucement la poignée de la porte qui la séparait de la mienne. Le verrou tint bon, heureusement, et le rôdeur quitta la pièce dans un concert de craquements de parquet étouffé. Au bout d'un moment, je perçus un autre cliquetis. Et je compris qu'on entrait dans la chambre au sud de la mienne. Une nouvelle fois, on tenta furtivement de pousser le bâton verrouillé, et une nouvelle fois, on dut battre en retraite. Le gémissement du parquet résonna alors dans le couloir puis dans l'escalier, et je sus que l'intrus, après avoir constaté que je m'étais enfermé, renonçait pour l'instant à sa tentative d'effraction. Seul l'avenir allait me dire combien de temps il me restait avant son retour. La rapidité avec laquelle j'établis alors un plan d'action prouve que j'avais inconsciemment dû m'attendre à quelques menaces et que je mûrissais depuis des heures mon évasion. Ce rôdeur invisible, estimai-je presque immédiatement, représentait un danger qu'il ne fallait ni défier ni affronter, mais seulement fuir le plus rapidement possible. Je devais au plus vite m'échapper de cet hôtel si je tenais à la vie, et par une autre issue que l'escalier et le hall d'entrée. Après m'être levé sans un bruit, je me guidai à l'aide de ma lampe torche vers l'interrupteur afin d'allumer l'ampoule du plafond et rassembler quelques affaires à emporter dans mes poches, car je ne comptais pas emporter ma valise dans ma fuite. Mais il ne se passa rien, et je compris que le courant avait été coupé. De toute évidence, une mystérieuse et démoniaque conjuration était à l'œuvre ici. Jusqu'à quel point, je n'aurais su le dire. Pendant que je réfléchissais, la main toujours posée sur l'interrupteur désormais inutile, j'entendis un craquement étouffé à l'étage inférieur et crus distinguer des échos de conversation. Un court instant après, je n'étais plus aussi sûr que ces graves sonorités fussent vraiment des voix, car ces aboiements rauques et ces coassements inarticulés n'avaient rien de commun avec le moindre langage connu. Le souvenir de ce qu'avait entendu l'inspecteur du travail en pleine nuit, dans cet hôtel pestilentiel et délabré, me revint avec plus de force. Quand j'eus rempli mes poches à la lueur de la lampe torche, je mis mon chapeau et m'approchai des fenêtres sur la pointe des pieds pour évaluer mes chances de descente par cette voie-là. En dépit des normes de sécurité promulguées par l'État, il n'y avait pas d'échelle d'incendie de ce côté du bâtiment, et trois étages séparaient mes fenêtres de la cour pavée en contrebas. À droite et à gauche, cependant, d'anciens immeubles de bureaux en briques jouxtaient l'hôtel, leurs toits en pente montant suffisamment haut pour que je puisse les atteindre d'un bond depuis mon quatrième étage. Toutefois, un tel bond ne pourrait se faire que depuis les seules chambres situées à deux portes de la mienne, au nord ou au sud, et mon esprit passa bientôt au crible tous les moyens de parvenir jusqu'à ces pièces. Je ne pouvais pas risquer de m'aventurer dans le couloir, où l'on entendrait sûrement le bruit de mes pas et où j'éprouverais sans doute de grandes difficultés à enfoncer la porte de la chambre dans laquelle je choisirais de pénétrer. Si je voulais réussir, je devais passer par les portes de communication intérieure au bois moins épais, et dont je devrais forcer les verrous et les serrures à coups d'épaule s'ils étaient du mauvais côté du battant. Étant donné l'état de délabrement général du bâtiment et de ses installations, je devrais y arriver sans mal, mais sûrement pas sans bruit. Seule la rapidité et une bonne part de chance me permettraient d'atteindre une fenêtre avant que mes assaillants, quels qu'ils soient, n'aient le temps de s'organiser et d'ouvrir la bonne pièce pour me barrer la route. Afin de les ralentir, je poussai, tout doucement pour faire le moins de bruit possible, la commode contre la porte d'entrée de ma propre chambre. J'avais conscience que mes chances étaient très minces et je m'attendais au pire. Quand bien même j'atteindrais un autre toit, je ne serais pas tiré d'affaire, car il me resterait encore à regagner le sol et m'échapper de cette ville. En revanche, l'état d'abandon et de vétusté des immeubles adjacents jouait en ma faveur, tout comme le grand nombre de lucarnes béantes et noires qui s'ouvraient dans leurs combles. Selon la carte du jeune homme de l'épicerie, c'était par le sud que je pourrais plus facilement quitter Innsmouth, si bien que j'examinais d'abord la porte mitoyenne de ma chambre correspondant à cette direction. Elle était montée de manière à s'ouvrir vers moi, et je découvris en tirant le verrou que d'autres fermetures la maintenaient en place. Comme il me serait difficile de la forcer, je dus renoncer à l'emprunter lors de ma fuite et pousser avec précaution le lit contre le battant, afin d'entraver toute attaque éventuelle depuis cette chambre voisine. La porte nord s'ouvrait vers l'extérieur, et je sus, bien qu'elle fût fermée à clé ou verrouillée de l'autre côté, quelle était ma seule issue. Si je parvenais à atteindre les toits des bâtiments sur Payne Street et regagner le sol sain et sauf, je pourrais peut-être filer à travers la cour et l'immeuble adjacent, ou celui d'en face pour rallier Washington ou Bates Street, ou alors émerger dans Payne Street et bifurquer vers le sud jusqu'à Washington Street. Dans tous les cas, mon but était d'atteindre Washington Street et de m'éloigner au plus vite du quartier de la Grand Place, si possible en évitant Payne Street dont la caserne de pompiers pouvait bien être ouverte la nuit. Tout en réfléchissant, j'observais l'étendue sordide des toits en ruine en dessous de moi, désormais frappé par les rayons d'une lune gibbeuse. Sur ma droite, la sombre entaille de la gorge du Manuxet découpait le paysage, les usines et la gare désaffectées accrochées à ses flancs tels des bernacles. Au-delà, le chemin de fer rouillé et la roue de Rowley se perdaient dans un vaste terrain marécageux parsemé de parcelles qui faisaient saillie, plus sèche et envahie de broussailles. Sur ma gauche, l'étroite route d'Ipswich serpentait, pâle et scintillante sous le clair de lune, dans la campagne proche sillonnée de cours d'eau. L'orientation de ma fenêtre m'empêchait de voir la route du sud en direction d'Arkham, celle que j'avais décidé d'emprunter pour quitter la ville. J'essayais de déterminer le meilleur moment pour m'attaquer à la porte nord et le moyen d'y parvenir le plus discrètement possible, car je remarquais que les vagues bruits de l'étage inférieur avaient laissé place à de nouveaux grincements de marche, plus appuyés cette fois-ci. Une lueur vacillante filtra sous la porte, et le plancher du couloir gémit sous une charge pesante. Des bruits assourdis qui peut-être sortaient d'une gorge se rapprochèrent, et l'on finit par frapper violemment à ma porte. Pétrifié, je restai un moment à attendre en retenant mon souffle. Il sembla s'écouler des éternités entières, au cours desquelles l'écœurante odeur de poisson qui baignait la ville me parut s'intensifier jusqu'à l'insoutenable. On frappa de nouveau, sans s'arrêter cette fois-ci, et avec une insistance croissante. Je compris alors qu'il était temps de passer à l'action, et tirai immédiatement le verrou de la porte nord en m'apprêtant à l'enfoncer. Les coups redoublèrent de plus en plus forts, et j'espérais que leur vacarme couvrirait le bruit de mes propres efforts. Prenant mon élan, je me ruai à plusieurs reprises sur le mince panneau de bois, l'épaule gauche en avant sans me soucier de la douleur ou de la violence des chocs. La porte résista plus que je ne m'y attendais, mais je refusais de m'avouer vaincu. À l'extérieur, le tumulte s'amplifiait. Enfin, le battant céda, mais dans un tel boucan qu'il était impossible que ceux qui m'assiégeaient n'aient pas entendu. Les coups à la porte devinrent un martèlement violent, tandis qu'un sinistre tintement de clé résonnait près des chambres voisines de la mienne. Je me ruai dans la pièce et parvins à pousser le verrou de la porte d'entrée avant qu'on puisse ouvrir la serrure. Mais au même instant, j'entendis dans le couloir qu'on s'approchait muni d'un passe-partout de la troisième chambre au nord, celle-là même par laquelle j'avais prévu de sauter sur les toits. Je sentis un instant le désespoir m'envahir à l'idée de me retrouver pris au piège dans cette pièce sans fenêtre et donc sans issue. La vague d'horreur démesurée qui déferla sur moi conféra une insondable et obscène étrangeté aux traces de pas que je découvris à la lueur de ma lampe torche. Ces traces laissées dans la poussière par le rôdeur qui avait tenté de pénétrer dans ma chambre un peu plus tôt. Puis, mû par quelque automatisme, malgré ma détresse hébétée, je m'élançai aveuglément vers la porte suivante, prêt à l'enfoncer et me ruer sur le verrou à l'entrée de la pièce voisine, s'il était encore en place, avant que mes agresseurs y fassent irruption. Un hasard inespéré m'offrit le sursis nécessaire, car le battant qui donnait sur la prochaine chambre était non seulement déverrouillé, mais également entrebâillé. Il ne me fallut pas plus d'une seconde pour le franchir et me jeter, l'épaule et le genou droit en avant, contre la porte du couloir qu'on commençait visiblement à ouvrir. Ma pression soudaine dut prendre l'assaillant par surprise, car le ventail se referma immédiatement, me permettant de faire coulisser le verrou intact dans sa gâchette, comme dans la salle précédente. J'avais gagné un bref répit, mais j'entendis bientôt s'atténuer le martèlement sur les deux portes du couloir, tandis qu'un vacarme confus enflait du côté de l'accès que j'avais barricadé avec le lit. De toute évidence, mes poursuivants s'étaient regroupés dans la chambre sud pour m'attaquer sur le côté. Au même instant, je perçus le tintement d'une clé dans la serrure de la chambre nord, et je compris qu'un danger plus immédiat menaçait. La porte communicante était grande ouverte, mais le temps manquait pour empêcher l'intrus de déverrouiller celle du couloir. Tout ce que je pouvais faire, c'était boucler l'issue que je venais de franchir et celle qui lui faisait face. Poussant un lit contre l'une, une commode contre l'autre et un cabinet de toilette devant la porte d'entrée. Ces barricades improvisées allaient devoir tenir jusqu'à ce que je saute de la fenêtre sur le toit du bâtiment de Payne Street. En cet instant terrible pourtant, ce n'était pas réellement la faiblesse de mes barrages qui m'emplissait d'horreur. Je tremblais parce qu'aucun de mes assaillants n'émettait, en dehors de quelques rares et hideux halètements, grognements et aboiements étouffés, la moindre parole intelligible. Alors que je déplaçais les meubles et m'élançais vers les deux fenêtres, j'entendis que les coups martelés derrière moi avaient laissé place au bruit d'une course précipitée dans le couloir. Manifestement, la plupart de mes adversaires étaient sur le point de concentrer leurs forces sur la fragile porte mitoyenne qui, ils le savaient, les mènerait jusqu'à moi. Dehors, la lune chatoyait sur le faîtage du bâtiment en contrebas, et je compris, à la vue de la pente raide sur laquelle je devrais atterrir, à quel point mon saut serait périlleux. Toujours sur mes gardes, je choisis comme issue la fenêtre la plus au sud, espérant me réceptionner sur la partie incurvée du toit et m'engouffrer par la lucarne la plus proche. Mais une fois à l'intérieur de ces immeubles délabrés, je ne serais pas tiré d'affaire pour autant, car l'on ne manquerait pas de me poursuivre. J'espérais néanmoins pouvoir redescendre et traverser la cour obscure en passant d'un trou béant à un autre pour enfin rejoindre Washington Street et m'enfuir par le sud. Le tumulte derrière la porte de communication était désormais épouvantable, et je vis que le bois mince du panneau commençait à se fendre, sans doute sous le poids de quelque robuste objet dont mes assaillants se servaient comme bélier. Le lit cependant tenait bon, m'offrant encore une maigre chance de m'échapper. Comme j'ouvrais la fenêtre, je remarquai qu'elle était flanquée d'un épais rideau de velours suspendu à une tringle par des anneaux en cuivre, et je notai à l'extérieur la présence de gros crochets maintenant les volets contre la façade. Il me vint alors une idée qui pourrait m'éviter un saut trop dangereux. Tirant d'un coup sec la tenture, sa tringle et ses montants, je glissai en toute hâte deux des anneaux autour des crochets puis laissai tomber le rideau, dont les lourds replis atteignirent sans encombre le toit contigu en dessous. Après avoir vérifié que les anneaux pourraient supporter mon poids, j'enjambai la fenêtre et me laissai glisser le long de mon échelle de corde improvisée, quittant à jamais le morbide édifice aux horreurs grouillantes de la pension Gilman. Je me réceptionnai sans mal sur les ardoises disjointes du toit en pente, et parvint à gagner la lucarne noire et béante sans déraper une seule fois. Avisant d'un coup d'œil que la fenêtre d'où je m'étais échappé était encore sombre, je remarquai qu'au nord, par-delà l'enfilade obscure des cheminées croulantes, une funeste lumière illuminait le siège de l'ordre de Dagon, le temple baptiste et l'église congrégationaliste, dont le souvenir m'emplissait d'effroi. La cour en contrebas semblait vide, et j'espérais avoir le temps de la traverser avant qu'on sonne l'alerte. Je plongeai alors le faisceau de ma lampe de poche dans les ténèbres de la lucarne et constatai l'absence de marche pour descendre. Ce n'était cependant pas très haut, si bien que je me hissais sur le rebord et me laissais tomber, atterrissant sur un parquet poussiéreux jonché de caisses et de tonneaux pourris. L'endroit était sinistre, mais ce genre d'atmosphère n'avait plus l'heure de m'atteindre désormais. Après qu'un bref coup d'œil sur ma montre m'eût appris qu'il était 2 heures, je m'élançai vers l'escalier qu'éclairait ma torche. Les marches gémissaient sous mes pas, mais semblaient saines, et je les dévalais à la hâte jusqu'au rez-de-chaussée, traversant 2 étages d'une bâtisse aux allures de vieille étable. Seul l'écho de mes pas résonnait dans le bâtiment désert. Je finis par atteindre le vestibule, au bout duquel s'ouvrait un rectangle de lumière blafarde, marquant la porte d'entrée délabrée sur Payne Street. Je fis volte-face et, trouvant la porte de derrière également ouverte, plongeai au bas des 5 marches d'un perron de pierre jusque sur le pavé herbeux de la cour. Les rayons de lune n'arrivaient pas jusqu'ici, mais j'y voyais assez pour me guider sans ma lampe. Certaines des fenêtres de la pension Gilman luisaient faiblement, et je crus entendre des bruits confus à l'intérieur. Je m'avançai à pas de loup sur les pavés en direction de Washington Street, et m'engouffrai bientôt dans la plus proche des maisons qui bordaient la cour. Le rez-de-chaussée était plongé dans le noir, et si bien qu'il me fallut traverser tout l'étage pour m'apercevoir que la porte de la rue avait été condamnée. Résolu à essayer un nouveau bâtiment, je me redirigeai à tâtons vers la cour, mais me figeai près de la porte d'entrée. Par une sortie dérobée de la pension Gilman se déversait une foule d'inquiétantes silhouettes dont les lanternes tressautaient dans les ténèbres et dont les voix, d'affreux coassements ou des cris étouffés, semblaient se répondre dans une langue qui n'était certainement pas de l'anglais. Ces ombres marchaient d'un pas indécis, et à mon grand soulagement je compris qu'elles ignoraient où j'étais. Mais à leur vue, je ne pus réprimer un frisson d'épouvante qui me traversa tout le corps. Il m'était impossible de distinguer leurs traits, mais leur démarche traînante et courbée était parfaitement révoltante. Et, comble de l'horreur, j'aperçus parmi elles une silhouette vêtue d'une robe étrange, et sans aucun doute possible, coiffée d'une tiare dont la forme m'était par trop familière. À mesure que ces ombres se répandaient dans la cour, je sentais mes peurs redoubler d'intensité. Et si ce bâtiment ne comportait aucune issue vers la rue? L'odeur de poisson était abominable, et je m'étonnais de pouvoir la supporter sans m'évanouir. À nouveau, je tâtonnais dans le noir en direction de Washington Street, ouvris une porte du couloir et entrai dans une pièce vide, dont les fenêtres au volet clos étaient dépourvues de châssis. À la lueur de ma torche, je parvins à entrouvrir ces panneaux et à sauter à l'extérieur, d'où je les remis discrètement en place. Je me trouvais maintenant dans Washington Street, en apparence déserte, et seulement éclairé par la clarté lunaire. Je pouvais toutefois entendre provenant de plusieurs directions les échos de courses lointaines sur les pavés, d'éclats de voix rauques et de très curieux tapotements qui n'étaient pas tout à fait des bruits de pas. Manifestement, je n'avais pas de temps à perdre. Je savais m'orienter dans la ville et je me réjouis que tous les réverbères soient éteints, comme c'est souvent le cas dans les régions rurales les plus pauvres quand la lune brille d'un tel éclat. Des bruits de poursuite me parvenaient également depuis le sud, mais je restais déterminé à m'enfuir dans cette direction. Je pourrais toujours, je le savais, m'abriter dans une entrée déserte si jamais je devais croiser une personne ou un groupe hostile. Je me mis donc en route d'un pas pressé et furtif le long des maisons en ruine. Bien que j'eusse perdu mon chapeau et froissé mes vêtements lors de ma périlleuse évasion, je restais présentable et j'avais bon espoir de passer inaperçu s'il m'arrivait de rencontrer un simple passant. Près de Bates Street, je me faufilai dans un vestibule béant tandis que 2 silhouettes à la démarche traînante traversaient la rue devant moi, mais je ne tardais pas à reprendre ma route vers le grand carrefour formé par l'intersection de Washington, de South et de la diagonale d'Elliott Street. Sans avoir jamais vu l'endroit, il m'avait semblé dangereux sur la carte du garçon d'épicerie, car pleinement exposé à la lueur de la lune. Il était impossible de l'éviter cependant, car les nombreux détours qu'impliquait le moindre changement d'itinéraire risquaient de me ralentir et de me faire repérer. Je n'avais pas le choix. Il me fallait traverser ouvertement et hardiment ce carrefour, en imitant de mon mieux la démarche pesante des gens d'Innsmouth, et en priant qu'il n'y eût personne dans les parages, ou du moins aucun de mes poursuivants. Quelle était l'ampleur ou même l'objectif de cette battue dont j'étais la proie? N'en avais pas la moindre idée. Une agitation peu coutumière semblait s'être emparée de la ville, mais j'estimais que la nouvelle de mon évasion du Gilman ne s'était pas encore répandue. Quitter Washington Street pour une rue parallèle s'avérerait bientôt nécessaire, car le groupe de l'hôtel s'était sans doute lancé à mes trousses. J'avais dû laisser des traces de pas dans la poussière de cette dernière vieille bâtisse, et ils sauraient très vite par où je m'étais enfui. Comme je l'avais craint, la lueur de la lune baignait le carrefour, au centre duquel j'aperçus les vestiges d'un parc ceinturé d'une grille de fer. Il n'y avait heureusement personne dans les parages, mais un curieux bourdonnement ou grondement semblait enfler du côté de la grande place. South Street, une large avenue en pente douce qui menait directement au quai, offrait une vue imprenable sur la mer. J'espérais seulement que personne posté là-bas n'aurait l'idée de regarder au loin dans ma direction pour me voir traverser le carrefour à la faveur de la lune. J'avançais sans encombre et ne relevais pas le moindre nouveau bruit indiquant qu'on ait pu me surprendre. Bien qu'à l'affût, je ralentis involontairement mon allure, le temps d'admirer en contrebas l'océan dont les flots scintillaient de mille feux sous l'éclat de la lune. Au loin, par-delà la jetée, s'étendait le profil trouble et noir du récif du diable. À sa vue, je ne pus m'empêcher de penser à toutes les ignobles légendes que j'avais entendues depuis les dernières 34 heures. Des légendes présentant ce rocher déchiqueté comme la porte d'un royaume d'horreur abyssale et d'infinie perversion. C'est alors que, sans crier gare, des lueurs se mirent à clignoter sur le lointain récif. Par trop distinctes et réelles, elles firent monter en moi des bouffées de panique absolument irrationnelles. Tous mes muscles se tendirent, parés pour une fuite éperdue que seul un mélange de prudence inconsciente et de fascination quasi hypnotique parvint à brider. Mais le pire était encore à venir, car du haut de l'imposant belvédère de la pension Gilman, qui se profilait au nord-ouest, je vis bientôt scintiller des éclairs analogues, mais différemment rythmés, qui ne pouvaient être qu'une réponse au premier signal. Reprenant le contrôle de mes muscles, je me rappelais combien j'étais à découvert et vulnérable sur ce carrefour, et m'empressai de reprendre ma course faussement boiteuse, sans quitter une seconde des yeux ce récif infernal et hostile que m'offrait la perspective sur la mer de South Street. Ce que pouvait bien signifier cet échange, je n'en avais aucune idée, à moins qu'il s'agisse de quelque étrange rituel lié au récif du diable, ou d'une troupe d'inconnus ayant accosté sur ce rocher sinistre. Je contournais par la gauche la pelouse désormais sauvage, les yeux toujours rivés sur l'océan embrasé par les lueurs spectrales de la lune d'été et les signaux étranges de ses mystérieux fanaux. C'est alors que je fus pénétré par la plus atroce et la plus effroyable vision qui se puisse imaginer. Cette vision qui abattit mon dernier vestige de sang-froid et me fit m'élancer dans une course effrénée droit vers le sud, le long des noires entrées et des croisées béantes comme des yeux de poisson de cette rue cauchemardesque que j'étais seul à arpenter. Car à y regarder de plus près, je m'étais rendu compte que les flots miroitants entre le récif et le littoral étaient, eux, loin d'être déserts. Ils pullulaient en réalité d'une légion de formes grouillantes qui nageaient en direction de la côte, et malgré la distance, un seul coup d'œil m'avait suffi pour comprendre que ces êtres dansant à la surface et ces bras fouettant l'eau n'avaient rien d'humain, qu'ils relevaient d'une aberration telle que tout effort pour l'exprimer ou la formuler consciemment était voué à l'échec. Ma course frénétique s'interrompit avant même que j'aie pu parcourir un pâté de maison, car je crus percevoir sur ma gauche la clameur assourdie d'une battue organisée. Je discernais des bruits de pas et des grognements gutturaux ainsi que les crachotements d'un moteur de voiture filant vers Federal Street en direction du sud. En une seconde, tous mes projets d'évasion s'écroulèrent, car si l'on m'interdisait l'accès de la grande route du sud, il me faudrait trouver au plus vite un autre itinéraire pour sortir d'Innsmouth. Je m'arrêtai et me fondis dans l'ombre d'une entrée délabrée pour me calmer. Il s'en était fallu de peu. À quelques secondes près, mes poursuivants de la rue parallèle m'auraient sans nul doute repéré sur ce maudit carrefour éclairé par la lune. Ma deuxième pensée fut moins rassurante. Si cette patrouille invisible écumait une autre rue que la mienne, c'était évidemment parce qu'ils n'avaient pas encore retrouvé ma trace. Ils ignoraient où j'étais et opéraient simplement quelques manœuvres visant à me barrer le chemin de la liberté. Malheureusement, cela impliquait que toutes les autres voies permettant de quitter Innsmouth seraient ainsi surveillées, car ils n'avaient pas pu deviner quel trajet je comptais emprunter. Dans ce cas, il me faudrait m'enfuir par les champs, loin de toute route. Mais comment y parvenir dans cette région marécageuse et sillonnée de cours d'eau? L'espace d'un instant, je fus pris de vertige, car au désespoir glacé qui m'avait envahi s'ajoutait désormais une odeur de poisson de plus en plus présente. Je me rappelais alors la voie de chemin de fer désaffectée en direction de Rowley, dont le solide tracé de terre ballastée, envahi par la végétation, s'étirait vers le nord-ouest depuis la gare en ruine, au bord du défilé de la rivière. Il restait une petite chance pour que les habitants n'y aient pas pensé, car son état d'abandon, comme les ronces qui l'asphyxiaient, la rendait parfaitement impraticable, de quoi dissuader même le plus éperdu des fugitifs. Je l'avais vu distinctement depuis ma fenêtre de l'hôtel, et je savais dans quel quartier la trouver. Le début de son tracé était malheureusement visible depuis la route de Rowley et les points culminants de la ville, mais il était peut-être possible de ramper discrètement à travers les broussailles. De toute manière, c'était ma seule planche de salut, et je n'avais d'autre choix que de tenter de l'emprunter. M'enfonçant dans le couloir de mon abri désert, je consultai une fois de plus la carte du commis de l'épicerie à la lueur de ma lampe torche. Mon problème immédiat était de rejoindre l'ancien chemin de fer, et j'établis rapidement que l'itinéraire le plus sûr me ferait aller tout droit jusqu'à Babson Street, puis obliquer vers l'ouest jusqu'à Lafayette, où il me faudrait contourner un espace à découvert comparable à celui que je venais de traverser, pour remonter ensuite vers le nord-ouest en zigzagant entre Lafayette, Bates, Adams et Bank Streets, cette dernière longeant la berge du Manuxet, jusqu'à la gare déserte et délabrée que j'avais vue de ma fenêtre. La raison pour laquelle j'avais choisi Babson Street était simple. Je ne souhaitais pas retraverser le dangereux carrefour précédent, ni commencer ma progression vers l'ouest dans une rue transversale aussi importante que South Street. Repartant de plus belle, je traversai la chaussée et gagnai le trottoir de droite afin de pouvoir me faufiler le plus discrètement possible dans Babson Street. Les bruits résonnaient toujours dans Federal Street, et comme je jetais un coup d'œil derrière moi, je crus voir une lueur s'approcher du bâtiment dont je venais tout juste de m'échapper. Impatient de quitter Washington Street, je m'élançai au petit trot vers le sud, tout en priant pour qu'on ne me surprenne pas. À hauteur du coin de Babson Street, je constatai avec horreur que l'une des maisons était habitée, comme le prouvaient les rideaux aux fenêtres. Elle était plongée dans l'obscurité toutefois, et je la dépassai sans encombre. Dans Babson Street, je croisai Federal Street, et risquai ainsi de m'exposer à la vue de mes poursuivants. Je longeai au plus près les façades croulantes et inégales des bâtiments, me réfugiant à deux reprises dans l'embrasure d'une porte obscure quand la clameur derrière moi gagnait en intensité. Face à moi, l'étendue à découvert du carrefour luisait, vaste et déserte, sous la lumière de la lune. Mais je n'aurais heureusement pas à la franchir. Lors de ma seconde pause, je détectai une nouvelle répartition des bruits incertains qui m'entouraient. Risquant un coup d'œil hors de ma cachette, je vis une automobile traverser en trombe l'intersection et filer dans Elliott Street qui croise à cet endroit Babson et Lafayette Streets. Alors que je la regardais disparaître, suffoqué par un regain d'odeur de poisson après un moment d'accalmie, je surpris un cortège de formes grossières et ramassées qui s'avançaient à grandes enjambées ou à pas traînants dans la même direction. Je compris qu'il s'agissait de la patrouille de la route d'Ipswich, dont la grande route débute dans le prolongement d'Elliott Street. Deux des silhouettes étaient vêtues de robes volumineuses, et l'une d'entre elles portait au front un diadème pointu au scintillement opalescent dans le clair de lune. Sa démarche était si déroutante que j'en frissonnais, car on eût dit que cette créature sautillait. Ma cavale reprit dès que le dernier membre de cette clique fut hors de vue. Je filai en direction de l'angle de Lafayette Street et franchis la chaussée d'Elliott Street à toute vitesse de peur d'y croiser le moindre retardataire de la patrouille. J'entendis bien quelques coassements et des bruits de moteur au loin, du côté de la grande place, mais j'atteignis Lafayette Street sain et sauf. Devoir retraverser South Street, si large et si éclairée, et braver sa perspective plongeante sur la mer, m'emplissait d'effroi, et je dus m'armer de courage. Il suffisait qu'on lève les yeux vers l'ouest, ou qu'un éventuel traînard du groupe d'Elliott Street m'aperçoive au croisement de Lafayette et de Babston, ou de Washington et South Street, et c'en était fait de moi. Au dernier moment, je jugeais qu'il valait mieux ralentir mon allure et adopter la démarche traînante des habitants d'Innsmouth au moment de franchir l'espace à découvert. Lorsque l'océan s'offrit de nouveau à ma vue, sur ma droite cette fois-ci, j'en appelais à toute ma volonté pour ne pas le regarder. Mais je n'y résistais pas bien longtemps et lui jetai un coup d'œil oblique, tout en imitant le pas pesant de mes poursuivants pour rejoindre les ombres protectrices du trottoir. Aucun navire n'était visible, comme je m'y attendais. En revanche, un petit canot attira promptement mon attention. Il glissait vers les quais déserts, chargé d'un objet volumineux recouvert d'une bâche. Malgré la distance et l'obscurité, je constatai que les rameurs étaient d'un aspect particulièrement repoussant. Je discernai également quelques nageurs, ainsi qu'une lueur faible et prolongée sur le lointain récif, bien distincte du signal clignotant d'auparavant et d'une couleur étrange que je ne parvenais pas à identifier. Au nord-est, par-dessus la ligne des toits en pente, se profilait le haut belvédère de la pension Gilman, parfaitement sombre désormais. L'odeur de poisson, un instant dissipée par quelques brises miséricordieuses, reprit mes narines d'assaut avec une intensité renouvelée. Je n'avais pas tout à fait franchi la chaussée quand j'entendis au nord les marmonnements étouffés d'une patrouille descendant Washington Street. Comme ils atteignaient le grand carrefour à découvert qui m'avait offert un peu plus tôt le troublant spectacle des flots scintillants dans le clair de lune, je les distinguai avec netteté malgré le pâté de maison qui nous séparait. Je fus horrifié par la bestialité monstrueuse de leurs traits et par leur démarche inhumaine, ample et ramassée, comme celle de chiens boiteux. L'un d'entre eux se déplaçait de façon parfaitement simiesque, ses longs bras touchant fréquemment le sol, tandis qu'un autre, vêtu d'une robe et coiffé d'une tiare, progressait presque par petits bonds. Il s'agissait certainement du groupe que j'avais vu sortir dans la cour de Gilman, c'est-à-dire celui qui suivait ma piste de plus près. Quand certaines des silhouettes tournèrent la tête dans ma direction, je parvins à conserver mon allure traînante et désinvolte, malgré la lame de terreur qui fouaillait mes entrailles. Aujourd'hui encore, j'ignore s'ils me virent ou pas. Si ce fut le cas, mon stratagème dut les abuser, car ils poursuivirent leur route sur ce carrefour baigné de lune sans dévier de leur parcours, ni cesser de croasser ou de baragouiner dans leur détestable et rocailleux patois qui me restait totalement obscur. À nouveau dans l'ombre, je repris mon petit trot le long des demeures penchées et délabrées dont les yeux vides sondaient la nuit. J'avais gagné le trottoir ouest et tourné au plus vite dans Bates Street, où je m'appliquais à raser les murs côté sud. Face à moi, deux maisons montraient des signes d'habitation, dont une faible lueur à l'étage pour l'une d'elles, mais je les dépassais sans rencontrer d'obstacle. Une fois dans Adam Street, alors même que je commençais à me sentir plus serein, je fus saisi d'horreur quand un homme sortit en titubant d'une entrée obscure juste en face de moi. Il était toutefois bien trop ivre pour présenter le moindre danger, de sorte que j'atteignis sans encombre les ruines lugubres des entrepôts de Bank Street. Rien ne bougeait dans cette rue morte bordant le défilé de la rivière, et le grondement des chutes en contrebas couvrait le bruit de mes pas. La gare délabrée était encore à bonne distance, et sans que je puisse dire pourquoi, les hautes parois de briques des entrepôts alentour m'inspiraient une peur plus profonde que les façades des rues précédentes. Mais je finis enfin par entrevoir les galeries de l'ancienne gare, ou plutôt ce qui en restait, et me précipitai vers les rails qui s'en échappaient de l'autre côté. Elles étaient pour la plupart en bon état malgré la rouille, et pas plus de la moitié des traverses n'avaient pourri. Marcher ou courir sur une telle surface s'avéra difficile, mais je fis au mieux et finis par adopter une allure correcte. La voie longea un certain temps le bord de la gorge, et finit par me mener au pied de la longue passerelle couverte qui enjambait le gouffre à une hauteur vertigineuse. L'état de cette structure déterminerait la suite de mon évasion. Si c'était humainement possible, je l'emprunterais. Dans le cas contraire, il me faudrait replonger dans les rues d'Innsmouth à la recherche du premier pont praticable. La lune promenait une lueur spectrale sur la vaste passerelle aux allures de vieilles granges en ruine, et je notais que les traverses étaient encore robustes sur au moins quelques mètres. Quand j'y pénétrais, à peine ai-je allumé ma lampe torche que je fus presque jeté à terre par une nuée de chauves-souris en fuite. À mi-parcours, je craignis de devoir rebrousser chemin, car une large trouée dans les traverses donnait sur le vide de la gorge. Mais j'étais désespéré et risquai un saut qui, par bonheur, fut couronné de succès. Je fus ravi de retrouver le clair de lune quand j'émergeais de ce macabre tunnel. Au-delà, l'ancienne voie ferrée traversait la chaussée de River Street, avant de couper à travers des champs. Dans cette région plus rurale où s'atténuait le parfum délétère d'Innsmouth, les broussailles et les ronces compliquaient ma progression et accrochaient cruellement mes vêtements. Cependant, elles m'offraient un couvert appréciable en cas de danger, car la route de Rowley passait non loin. Le sol devint bientôt marécageux, et le chemin de fer s'éleva sur un remblai herbeux où la végétation se fit moins dense. Les rails grimpaient ensuite une sorte de tertre, filant le long d'une cuvette peu profonde envahie de buissons et de ronces. L'abri partiel de ces fourrés me réjouit par avance, pour avoir vu depuis ma fenêtre de l'hôtel qu'à cet endroit, la voie se rapprochait dangereusement de la route de Rowley. Cette dernière coupait même la voie ferrée au bout de la cuvette, avant de s'en éloigner définitivement. Il me fallait donc faire preuve d'une extrême prudence. Je pouvais toutefois me rassurer sur un point. Le chemin de fer n'était pas surveillé. Au moment où je m'apprêtais à m'engouffrer dans l'étroit défilé, je jetai un coup d'œil derrière moi et n'aperçus aucun poursuivant. Le clair de lune nimbait les vieux clochers et les toits délabrés d'une envoûtante lueur fauve dont la magie éthérée me laissait entrevoir, l'espace d'une seconde, la splendeur passée d'Innsmouth, avant que les ténèbres s'abattent sur elle. Puis, comme je reportais mon regard vers les terres, un spectacle moins paisible attira mon attention et me figea aussitôt. Car ce que je vis, ou crus voir, c'était le troublant frémissement d'une ondulation loin au sud, un frémissement qui me fit comprendre qu'une horde lointaine se déversait hors de la ville sur la route d'Ipswich. La distance était grande et je ne pouvais rien distinguer en détail, mais cette colonne mouvante me déplaisait au plus haut point. Elle ondoyait bien trop et reflétait trop vivement les rayons de la lune déclinante. Une étrange rumeur me parvenait également, malgré le vent contraire, un murmure charriant des grincements et des braillements plus bestiaux encore que les rauques chuchotis des patrouilles qui quadrillaient la ville. Toutes sortes d'affreuses hypothèses me traversèrent l'esprit. Je songeais à ces cas extrêmes de cette dégénérescence caractéristique d'Innsmouth, qu'on disait cachée dans des terriers croulants et séculaires près des quais. Je songeais également à ces indéfinissables nageurs aperçus plus tôt. Si j'ajoutais à tous les groupes entreaperçus en ville ceux qui surveillaient sans doute les autres routes, le nombre de mes poursuivants devenait étrangement élevé pour une ville aussi dépeuplée qu'Innsmouth. D'où pouvaient donc venir les membres de cette cohorte qui s'agitait sous mes yeux? Ces anciennes et insondables galeries grouillaient-elles d'une vie déliquescente, clandestine et insoupçonnée? Ou bien quelque invisible navire avait-il débarqué une légion d'étrangers inconnus sur ce récif démoniaque? Qui était-il? Que faisait-il là? Et si une telle meute écumait la route d'Ipswich, ces mêmes êtres avaient-ils grossi les rangs des autres patrouilles? Je m'étais enfoncé dans la cuvette embroussaillée et y progressais à grand-peine lorsque cette maudite odeur de poisson ressurgit, plus écœurante que jamais. Le vent avait-il brusquement tourné vers l'est? Soufflait-il de la mer désormais en poussant vers moi les remugles de la ville? Sans doute, car d'ignobles murmures gutturaux commençaient également à me parvenir depuis cette direction, jusqu'alors silencieuse. Un autre bruit les accompagnait, une sorte d'immense trépidation ou de tapotement frénétique qui faisait naître dans mon esprit de détestables images. Contre toute logique, ce bruit me faisait penser à cette colonne aux ondulations repoussantes sur la lointaine route d'Ipswich, C'est alors que la puanteur et les bruits s'intensifièrent à tel point que je m'immobilisais, tremblant, remerciant le ciel d'être à couvert dans cette cuvette. C'était ici, je m'en souvenais, que le chemin de Rowley passait au plus près de l'ancienne voie, avant de couper puis de bifurquer vers l'ouest. Et quelque chose foulait justement la terre de cette route. Quelque chose dont il me faudrait attendre le passage, tapis parmi les ronces, avant de pouvoir m'échapper. Dieu merci, ces créatures n'employaient pas de chien pour me pister, quoique l'omniprésente odeur de poisson leur eût sans doute compliqué la tâche. Embusqué dans les fourrés de cette cuvette sablonneuse, je me sentais à peu près en sécurité, quand bien même je savais que mes poursuivants allaient sous peu traverser la voie à moins d'une centaine de mètres de ma position. Je pourrais les voir sans être vu, sauf si le destin me jouait quelque mauvais tour. J'éprouvais soudain une profonde panique à l'idée de les contempler. Plus j'observais cet espace étroit et baigné de lune dans lequel ils allaient déferler, et plus j'avais l'impression qu'ils le souilleraient à jamais par leur simple présence. Il s'agirait peut-être des sujets les plus atrocement contaminés d'Innsmouth, et je savais qu'ils entraient à jamais mes souvenirs. La puanteur était désormais intolérable, et la clameur enfla en une cacophonie bestiale de croassements, d'aboiements et de jappements qui n'évoquaient pas le moindre langage humain. Étaient-ce vraiment là les voix de mes poursuivants? Peut-être avaient-ils des chiens, après tout. Je n'avais pourtant croisé aucun de ces animaux à Innsmouth. Ces frétillements et ces sautillements étaient parfaitement monstrueux. Jamais je ne pourrais soutenir la vue des créatures corrompues qui en étaient à l'origine. Je fermerais plutôt les yeux jusqu'à ce que l'écho de leur passage s'éteigne à l'ouest. La horde était toute proche désormais. Ses grognements rauques flétrissaient l'atmosphère. La cadence inhumaine de ces milliers de pieds faisait presque vibrer le sol. Le souffle commençait à me manquer, et ce ne fut qu'au prix d'un suprême effort de volonté que je parvins à garder les paupières baissées. Je ne suis toujours pas disposé à dire encore aujourd'hui si ce qui suivit fut une hideuse réalité ou le fruit d'une hallucination cauchemardesque. Les mesures ultérieures prises par le gouvernement en réponse à mes appels à l'aide hystérique tendraient à confirmer la monstrueuse nature des faits. Mais une hallucination n'aurait-elle pas pu se répandre d'esprit en esprit sous l'influence quasi hypnotique de cette vieille ville d'ombre et de spectres? De tels endroits possèdent parfois d'étranges vertus, et qui sait si l'héritage de légendes démentes de celui-ci n'avait pas ébranlé plus d'une imagination humaine, avec ses rues mortes et pestilentielles, ses amas lépreux de toits tassés et ses clochers croulants. Serait-il possible que le germe d'une folie endémique hante les replis de cette ombre qui plane sur Innsmouth? Qui peut démêler le vrai du faux après avoir entendu l'histoire du vieux Zadok Allen? Les agents fédéraux n'ont jamais retrouvé le pauvre vieillard et ne disposent d'aucun élément permettant la moindre conjecture sur ce qu'il a bien pu devenir. Où s'achève la folie et où commence le réel? Se peut-il que cette dernière vision d'horreur n'ait été qu'une chimère, elle aussi? Mais il me faut essayer de raconter ce que je crus voir cette nuit-là, ou cette narquoise lune jaune, ce que je vis déferler et sautiller le long de la route de Rowley, juste en face de moi, tandis que je me tairais dans les ronds sauvages de cette portion de voie ferrée désaffectée. Bien entendu, je n'avais su m'en tenir à ma résolution initiale de garder les paupières closes. Une résolution de toute façon vouée à l'échec, car qui pourrait rester aveugle et recroquevillé pendant qu'une légion d'êtres coassants et hurleurs surgit du néant, claudiquait atrocement à 100 mètres de distance. Je me croyais prêt au pire, et ça aurait effectivement dû être le cas après tout ce que je venais de traverser. L'anormalité blasphématoire de mes précédents poursuivants n'aurait-elle pas dû me préparer au paroxysme de cette même anormalité, à savoir me retrouver confronté à des formes dépourvues de la moindre caractéristique humaine? J'ai réussi à garder les yeux fermés jusqu'au moment où la clameur rauque me parvint avec force depuis un point situé juste en face de moi. Je compris alors qu'une importante section de la horde franchissait l'endroit, où les flancs de la cuvette s'aplanissaient, et où la route coupait la voie ferrée, et je ne pus dès lors résister à jeter un coup d'œil à l'abominable spectacle que cette sournoise lune jaune me réservait. Cet élan de curiosité marqua alors l'anéantissement, et pour le restant de mes jours passés à la surface de cette terre, des derniers vestiges de sérénité et de confiance en l'intégrité de la nature ou de l'âme humaine qui subsistait encore en moi. Rien de ce que j'aurais pu imaginer, rien, dis-je, quand bien même j'aurais prêté foi au moindre détail du récit délirant du vieux Zadok, ne pouvait se comparer à la réalité démoniaque et sacrilège que je vis ou crus voir. J'ai tenté jusqu'ici d'en ébaucher les contours afin de différer l'horreur d'une description trop brutale, car comment cette planète aurait-elle pu engendrer de telles créatures? Était-il possible que des yeux humains aient pu contempler, incarner dans la chair, ce qui jusqu'alors ne peuplait que les fantasmes fiévreux et les plus folles légendes des hommes? Et pourtant ce que je vis sous cette lune spectrale, déversé en un torrent de claudications, de caracoles, de coassements et de bêlements sans fin. Une grotesque, inhumaine et malveillante sarabande surgit des abîmes fantastiques du cauchemar. Certains étaient coiffés de hautes tiares ciselées dans cet indéfinissable or blanchâtre. D'autres portaient d'étranges robes. Et l'un d'entre eux, tout à l'avant, portait un paletot noir qui révélait sa sinistre silhouette bossue, un pantalon rayé et un chapeau de feutre perché sur la chose informe qui lui tenait lieu de tête. Leur couleur dominante était, je crois, un gris verdâtre, malgré la blancheur de leur ventre. Leur corps semblait recouvert d'une émulsion huileuse et luisante, à l'exception de leur épine dorsale écailleuse. Bien que leur silhouette fût vaguement anthropoïde, ils arboraient des têtes de poissons dont les yeux prodigieusement exorbités ne clignaient jamais. Des ouïes palpitaient sur les côtés de leur cou, et leurs longues pattes étaient palmées. Ils progressaient par petits bonds irréguliers, parfois sur deux jambes, parfois sur quatre. Et d'une certaine manière, je fus soulagé qu'il n'ait pas plus de quatre membres. Les coassements et les aboiements qui sortaient de leur gorge, et leur servaient manifestement de langage articulé, revêtaient toutes les sombres nuances d'expression que leur face figée ne pouvait afficher. Mais en dépit de leur monstruosité, ils me paraissaient familiers. Je ne savais que trop bien ce qu'étaient ces créatures, car je me rappelais sans mal la tiare maléfique de Newburyport. J'avais devant moi les poissons crapauds blasphématoires représentés dans ces indicibles motifs ignoblement vivants, et à leur vue, je compris quel terrifiant souvenir ce prêtre voûté avec sa tiare dans la crypte obscure de son église avait éveillé en moi. Je ne pourrais dire combien ils étaient. Il me semblait qu'il s'écoulait en nuées infinies, et que mon bref coup d'œil n'avait pu embrasser qu'une infime partie de leur armée. Presque immédiatement, cette vision infernale sombra dans les ténèbres quand, pour la première fois de ma vie, je m'évanouis.
5. Il faisait jour quand une légère averse me tira de mon hébétude. Toujours blotti au milieu des broussailles de la voie ferroviaire, et quand je titubais jusqu'à la route en face de moi, je ne trouvais pas la moindre trace de pas dans la boue fraîche. L'odeur de poisson avait disparu, elle aussi. Les toits en ruine et les clochers branlants d'Innsmouth plaquaient leur silhouette grise contre l'horizon au sud-est, et je n'aperçus pas le moindre être vivant dans l'étendue désolée des marais salants alentour. Ma montre fonctionnait encore et m'apprit qu'il était midi passé. La réalité de ce que je venais de vivre me paraissait désormais hautement improbable, mais je sentais quelque chose d'ignoble se tapir dans ce décor. Il me fallait m'éloigner à tout prix de la maléfique Innsmouth, à tel point que je commençais aussitôt à déplier mes pauvres jambes fourbues et ankylosées,
Malgré la faiblesse, la faim, la peur et la prostration qui étaient miennes, je me découvris bientôt capable de marcher, et c'est chancelant que je débutais ma progression sur la route bourbeuse en direction de Rowley. Avant le soir, j'avais atteint le village, où je pus me restaurer et me procurer des vêtements plus présentables. Je pris le train de nuit pour Arkham et me rendis dès le lendemain auprès des autorités pour une longue et sérieuse discussion, démarche que je renouvelai peu après à Boston. Le grand public sait à présent quelles furent les conséquences de ces entretiens, et j'aurais souhaité, pour l'amour de la raison, qu'il n'y ait plus rien à ajouter. Peut-être est-ce seulement la folie qui s'empare de moi aujourd'hui, à moins qu'une plus grande horreur ou qu'un plus grand prodige me tende les bras. Comme on peut l'imaginer, je renonçais à presque tous les agréments que devait comporter la suite de mon voyage, ces distractions touristiques, architecturales et historiques dont j'attendais tant. De même, je n'osais pas aller voir l'étrange bijou qu'on disait conservé au musée de l'université Miskatonic. Je mis toutefois à profit mon séjour à Arkham en recueillant certaines données généalogiques que je cherchais depuis longtemps. J'en tirais des notes rapides et grossières, il est vrai, mais qui pourraient s'avérer utiles plus tard quand j'aurai le temps de les collationner et de les structurer. Le conservateur de la Société historique locale, M.I. Lapham Peabody, m'apporta fort courtoisement son aide et manifesta un intérêt tout particulier quand je lui révélai être le petit-fils d'Eliza Horne, une résidente d'Arkham née en 1867 et qui avait épousé James William Doyle à l'âge de 17 ans. Il apparut qu'un de mes oncles maternels avait effectué ici même, bien des années plus tôt, des recherches presque identiques aux miennes, et que la famille de ma grand-mère constituait une sorte d'énigme locale. Le mariage de son père, Benjamin Horne, m'apprit M. Peabody, avait beaucoup fait jaser au lendemain de la guerre civile, en raison du mystère entourant les origines de la jeune épouse. On la disait orpheline, issue d'une certaine famille Marsh du New Hampshire, une lignée cousine des Marsh du comté d'Essex, mais elle avait été élevée en France et ignorait presque tout de sa propre ascendance. Un tuteur avait versé des fonds dans une banque de Boston pour subvenir à ses besoins et ceux de sa gouvernante française, mais l'homme, dont le nom était inconnu des gens d'Arkham, avait fini par disparaître, de sorte que la gouvernante avait endossé ce rôle de tutelle par décision de justice. Cette Française, depuis longtemps défunte, était une femme extrêmement taciturne, et certains estimaient qu'elle en savait bien plus long qu'elle n'en laissait paraître. Mais le plus troublant, c'était que personne ne pouvait situer les parents présumés de la jeune femme. Enoch et Lydia, nées Messerve, Marsh, parmi les familles connues du New Hampshire. De la vie générale, elle était sans doute la fille naturelle d'un personnage haut placé de cette lignée, car elle possédait incontestablement les yeux des Marsh. Le bon peuple d'Arkham avait commencé à s'interroger à son sujet après sa mort prématurée, survenue lors de la naissance de ma grand-mère, son unique enfant. Le nom de Marsh revêtant pour moi de bien sinistres connotations désormais, je n'appréciais guère de le retrouver dans mon propre arbre généalogique, tout comme il me déplut d'entendre M. Peabody suggérer que j'avais moi aussi les yeux des Marsh. Je lui fus toutefois reconnaissant pour ces informations qui s'avéreraient, je le savais, fort précieuse. Je pris par ailleurs profusion de notes et répertoriai les nombreux ouvrages de référence relatives à la famille Horne, dont l'histoire était bien documentée. De Boston, je rentrai directement chez moi, à Toledo, puis séjournai un mois à Momie pour me remettre de mes épreuves. En septembre, j'intégrai l'université d'Oberlin pour ma dernière année d'études et me consacrai jusqu'en juin à l'obtention de mon diplôme et à d'autres activités salutaires. Seules d'occasionnelles visites d'agents fédéraux en lien avec l'opération policière que mes adjurations et mon témoignage avaient déclenchée vinrent me rappeler de temps à autre ma terrible mésaventure. Vers la mi-juillet, un an tout juste après ce que j'avais vécu à Innsmouth, je passai une semaine à Cleveland dans la famille de ma défunte mère, où je pus confronter mes récentes découvertes généalogiques avec les différents documents, traditions et objets de famille qui s'y trouvaient, afin d'en dresser si possible un tableau cohérent. Je dois avouer que cette perspective ne m'enchantait guère, tant l'ambiance de la demeure des Williamson m'avait toujours déprimé. Il y régnait un certain climat de morbidité, et durant mon enfance, ma mère ne m'avait jamais encouragé à rendre visite à ses parents, bien qu'elle eût toujours accueilli son père à bras ouverts quand il venait à Toledo. Ma grand-mère, originaire d'Arkham, m'avait toujours paru étrange. Elle me faisait presque peur, et je ne crois pas l'avoir beaucoup pleuré à sa mort. J'avais alors 8 ans, et l'on racontait qu'elle s'était laissée dépérir après le suicide de mon oncle Douglas, son fils aîné. Il s'était tiré une balle dans la tête au retour d'un voyage en Nouvelle-Angleterre. Ce même voyage, sans aucun doute, qui lui valait d'être resté dans les mémoires des membres de la Société historique d'Arkham. Cet oncle ressemblait à ma grand-mère, et je ne l'avais jamais aimé non plus. Quelque chose dans leur regard fixe et inexpressif m'avait toujours rempli d'un vague et inexplicable malaise. Ce n'était pas le cas de ma mère et de mon oncle Walter, qui tenaient de leur père, même si mon pauvre petit cousin Lawrence, le fils de Walter, avait été le portrait craché de notre grand-mère avant qu'une étrange affection nécessite son internement à vie dans un sanatorium à Canton. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ans, mais mon oncle avait une fois laissé entendre qu'il était au plus bas, tant mentalement que physiquement. Ce traumatisme avait sans nul doute provoqué en grande partie la mort de sa mère 2 ans auparavant. Mon grand-père et Walter, son fils, veuf, occupaient seuls la demeure de Cleveland désormais, mais une étouffante chape de souvenirs pesait sur la maisonnée. L'endroit me faisait toujours horreur, si bien que je m'efforçais d'accomplir mes recherches le plus rapidement possible. Mon grand-père me prodigua d'innombrables anecdotes et documents concernant la branche Williamson de la famille. Pour celle des Horn, je me tournai vers mon oncle Walter, qui mit à ma disposition le contenu de tous ses dossiers, comprenant notes, lettres, coupures de presse, souvenirs de famille, photographies et miniatures. C'est en parcourant les lettres et les clichés du côté Horn que je sentis grandir en moi une sorte de terreur face à mes propres origines. Comme je l'ai précisé, l'apparence de ma grand-mère et de mon oncle Douglas m'avait toujours perturbé. À présent, bien des années après leur mort, j'éprouvais devant leur portrait un sentiment accru de répulsion et d'aliénation. Je m'étonnais d'abord de la violence de cette impression, mais peu à peu une sorte d'ignoble rapprochement se fit jour dans les tréfonds de mon âme. Bien que mon esprit conscient refuse obstinément de lui accorder le moindre soupçon de réalité. Il était évident que l'expression caractéristique de ses visages m'évoquait désormais quelque chose que je n'y voyais pas auparavant. Quelque chose qui m'emplirait certainement d'une peur panique si j'y pensais trop ouvertement. Mais le pire fut lorsque mon oncle me montra les bijoux de la famille Horn, conservés dans un coffre-fort d'une banque du centre-ville. Quelques-uns témoignaient d'un raffinement et d'un art consommé, mais il y avait aussi une petite cassette de vieilles parures étranges héritées de ma mystérieuse arrière-grand-mère et que mon oncle n'ouvrit pas sans une certaine réticence. Ces bijoux, disait-il, étaient d'une conception grotesque et presque répugnante. Il ne se souvenait pas les avoir jamais vus arborés en public, même si ma grand-mère prenait plaisir à les contempler. Ils portaient malheur, selon les vieilles légendes qui s'étaient cristallisées autour d'eux, et la gouvernante française de mon arrière-grand-mère avait prévenu qu'il ne fallait pas les exhiber en Nouvelle-Angleterre, alors qu'on pouvait sans risque les porter en Europe. Tout en déballant lentement et à contre-cœur les 10 objets, mon oncle me mit en garde contre l'étrangeté et la laideur fréquente de leurs motifs. D'après les orfèvres et les archéologues qui les avaient examinés, leur somptuosité exotique n'avait d'égal que leur finesse d'exécution, bien que personne ne sache identifier exactement leurs matériaux, ni les rattacher au moindre courant artistique. Il y avait 2 anneaux de bras, 1 tiare et 1 sorte de pectoral, ce dernier arborant en relief des personnages d'une extravagance presque insupportable. J'étais parvenu à dominer mes émotions durant cette description, mais mon visage trahissait mon effroi grandissant. Mon oncle parut s'en inquiéter et interrompit un instant ses manipulations pour m'observer. Je le priai de continuer,
et il s'exécuta non sans manifester de nouveaux signes de réticence. Probablement s'attendait-il à quelque violente réaction de ma part lorsque le premier bijou, la tiare, apparut. Mais je doute qu'il ait prévu ce qui s'ensuivit. Moi non plus d'ailleurs, car je me croyais désormais prêt à soutenir la vue de ces ornements dont je soupçonnais que trop bien la provenance. Pourtant, ma seule réaction fut de m'évanouir en silence, comme je l'avais fait un an plus tôt sur cette voie ferroviaire envahie de ronces. Depuis ce jour, ma vie ne fut plus qu'un long cauchemar peuplé d'angoisses et de sombres ruminations, au sein duquel la démence le disputait à l'ignoble vérité. Mon arrière-grand-mère avait été une marche d'origine inconnue, dont le mari vivait à Arkham, et le vieux Zadok n'avait-il pas mentionné qu'une fille née d'Obed Marsh et d'une mère monstrueuse avait épousé par la ruse un homme d'Arkham? Et qu'avait donc marmonné le vieil ivrogne au sujet de mes yeux et de ceux du capitaine Obed? À Arkham, le conservateur avait lui aussi affirmé que j'étais affublé des yeux des Marsh. Obed Marsh était-il donc mon arrière-arrière-grand-père? Mais dans ce cas, qui avait été ma trisaïeule? Était-elle seulement humaine? Peut-être tout ceci n'était-il que folie. Ces parures de pâle avaient tout aussi bien pu être achetées à un marin d'Innsmouth par le père de mon arrière-grand-mère, quel qu'il fût. Et qui sait si ce regard fixe aux yeux morts de ma grand-mère et de mon oncle suicidaire n'avait pas été qu'une lubie de ma part, un mirage envenimé par l'ombre d'Innsmouth qui teintait de ténèbres mon imagination fébrile. Mais pourquoi, alors, mon oncle s'était-il tué après sa quête généalogique en Nouvelle-Angleterre? Pendant plus de 2 ans, je réussis à peu près à repousser ces pensées. Mon père me trouva un emploi dans une compagnie d'assurance, et je m'enterrai dans la routine aussi profondément que possible. C'est au cours de l'hiver 1930-1931, cependant, que débutèrent les rêves. Ils furent au départ très espacés et insidieux, mais ils gagnèrent en fréquence et en intensité au fil des semaines. D'immenses étendues aquatiques s'offraient à moi, et il me semblait errer parmi les vastes portiques engloutis et d'infinis dédales de parois cyclopéennes couvertes d'algues, avec des poissons grotesques pour seuls compagnons. Et puis apparurent les autres, qui m'emplissaient d'indicibles horreurs au moment du réveil. Mais pendant les rêves, ils ne m'effrayaient pas, bien au contraire, car je ne faisais qu'un avec eux. Je revêtais leurs ornements, j'empruntais leurs chemins sous-marins, et je priais leurs idoles infernales dans leurs temples au fin fond des mers. Je ne pouvais me rappeler tous les détails, mais ce qu'il m'en restait chaque matin au réveil aurait suffi à me faire traiter de fou ou de génie si j'avais osé le coucher par écrit. Quelque effroyable influence, je le savais, cherchait à m'éloigner progressivement du monde de la raison et de la vie quotidienne pour m'attirer au fond d'impénétrables abysses aux noirceurs sans nom. Et ce lent naufrage m'en coûtait. Ma santé comme mon apparence déclinèrent, au point que je dus renoncer à ma situation et adopter la vie recluse et statique d'un infirme. Une étrange affection nerveuse s'était emparée de moi, et je me trouvais par moments incapable de fermer les yeux. C'est alors que je commençais à m'étudier dans le miroir avec une inquiétude croissante. Les lents ravages de la maladie ne sont jamais plaisants à voir, mais dans mon cas, quelque chose de plus subtil, de plus troublant, était à l'œuvre. Mon père sembla le remarquer lui aussi, car il se mit à me jeter des regards curieux, presque craintifs. Que m'arrivait-il ? Allais-je finir par ressembler à mon oncle Douglas ou à ma grand-mère? Je fis une nuit un songe terrifiant au cours duquel je rencontrai cette dernière sous l'océan. Elle vivait dans un palais phosphorescent aux multiples terrasses, tapissé de jardins d'étranges coraux lépreux aux grotesques sépales. Elle m'y accueillit avec un sourire chaleureux, dans lequel je crus déceler une certaine ironie. Elle avait changé, comme changent tous ceux qui passent sous l'eau, et me confia qu'elle n'était jamais morte. À la place, elle avait rejoint ce lieu dont son défunt fils avait appris l'existence,
et s'était immergé dans un royaume de merveilles, des merveilles qui lui étaient destinées à lui aussi, mais qu'il avait renié d'un coup de revolver. Ce royaume serait le mien également. Je ne pouvais pas lui échapper. Je ne mourrais jamais et vivrais parmi ces êtres qui existaient déjà bien avant que l'homme foule la terre. Je rencontrai aussi la créature qui avait été sa propre grand-mère pendant 80 000 ans. Stiatli avait vécu à Yantiei, où elle était revenue après la mort d'Obedmarsh. Yantiei n'avait pas été détruite par les hommes de la surface quand ils avaient déchaîné le feu de la mort au fond de l'océan. Ils l'avaient blessée, oui, mais pas détruite. Il était impossible de détruire les profonds, quand bien même la magie paléogène des anciens oubliés avait pu les tenir en échec. Pour l'heure, ils se reposaient, mais un jour, ils s'en rappelleraient. Ils regagneraient la surface pour y lever le tribut qu'exigeait le grand Cthulhu. Ils choisiraient la prochaine fois une cité bien plus importante qu'Innsmouth. Ils comptaient se multiplier, et ils avaient semé dans le monde d'en haut les germes de leur avenir. D'ici là, ils devraient encore attendre. Pour avoir attiré sur eux le feu de mort des hommes de la surface, il me faudrait faire pénitence. Mais celle-ci serait légère. Ce fut au cours de ce rêve que j'aperçus pour la première fois un Shoggoth, et à sa vue je m'éveillai en poussant des hurlements frénétiques. Ce matin-là, le miroir m'apprit que je portais de façon irrémédiable le masque d'Innsmouth. Je ne me suis toujours pas suicidé comme mon oncle Douglas. Après avoir acheté un automatique, j'ai presque sauté le pas, mais certains rêves m'en ont dissuadé. Les marées d'épouvante qui noyaient mon esprit refluent désormais, et je me sens inexplicablement attiré par les profondeurs insondables de l'océan au lieu de les redouter. J'entends et je fais d'étranges choses dans mon sommeil, et au réveil une sorte d'exaltation s'est substituée à la terreur que j'éprouvais. À la différence des autres, je ne crois pas avoir besoin d'attendre ma complète métamorphose, sans quoi mon père me ferait probablement interner dans un sanatorium à l'instar de mon pauvre cousin. Des splendeurs prodigieuses et insoupçonnées m'attendent dans les abysses, et j'irai bientôt les retrouver. Yarele, Cthulhu, Ftarn, Ea, non, je ne me tuerai pas. Rien ni personne ne peut m'obliger à en finir ainsi. Je vais faire évader mon cousin de cet asile d'aliénés à Canton, et ensemble nous gagnerons la vieille Innsmouth au ténébreux prodige. Nous nagerons alors vers ce récif obscur et fendrons les noirs abîmes jusqu'à la cyclopéenne Yantelei. Dans l'antre des profonds et parmi ces innombrables colonnes, nous vivrons à jamais baignés de merveilles et de gloire.